Europe 1, il est 7h.
En général, je donne 100 euros à ma mère parce qu'on est 4 enfants, du coup, bah, j'aide un peu ma mère quand même. Donc il me reste 200 euros pour le reste, mais en général, je finis pas les mois, je saurais même pas vous dire où part mon argent.
Parole d'étudiante ce matin sur Europe 1, la précarité des unes face au confort des autres. Des situations contrastées alors que la mobilisation pour des conditions de vie décentes se poursuit.
Des étudiants qu'Emmanuel Macron rencontrera aujourd'hui à Amiens, déplacement de 2 jours dans sa ville natale.
Redonner le pouvoir aux salariés et aux chômeurs à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, une simple application permettra à chacun de gérer directement sa formation professionnelle.
Le procès aujourd'hui du meurtre d'Élodie Kulik et l'attente d'un père 17 ans après.
Je recherche la vérité, je voudrais qu'ils me disent au moins qu'elles ont c'était les dernières paroles de ma fille. Puis la voir devant moi. Moi, je suis prêt. Si lui ne l'est pas, moi, je serai prêt.
À suivre aussi la mise en cause directe de Donald Trump dans les auditions en vue de sa destitution.
Et une séance dégustation.
C'est le goût du Beaujolais. Mais franchement, il est pas mal. Il est pas mal. Il est très fruité. Il a un peu plus de corps que d'habitude.
Le Beaujolais nouveau arrive aujourd'hui. 7h01. Bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Marion Calais, Mathieu Béliard.
Le président des territoires, étape numéro 2.
Après avoir cajolé les maires ces derniers jours, encore hier soir avec une réception à l'Élysée, Emmanuel Macron est aujourd'hui attendu à Amiens, une visite de 2 jours pour une séquence politique et personnelle qu'il évoque dès ce matin dans le Courrier Picard, Jean-Rémy Baudeau.
Je suis un enfant d'Amiens. Dans les colonnes du Courrier Picard, Emmanuel Macron livre une facette de son histoire dont il parle peu, son enfance. Jusqu'à 16 ans, je n'ai pas quitté Amiens, explique le président. Qui parle d'un déplacement personnel, chargé d'histoire. Une partie de sa famille y vit encore. Amiens, qui a beaucoup souffert, mais qui se relève avec courage, explique le chef de l'État. Il semble vouloir faire de la ville un symbole de ses réformes. C'est là qu'il va inaugurer la première Maison France Service, imaginée après le grand débat. Mais la visite du président s'annonce tout de même délicate. Le TGV promis qui n'a jamais vu le jour. Le canal Seine-Nord qui peine à aboutir. Il y a aussi la question de la vie étudiante que j'évoquerai, dit prudemment le président dans son interview. Mais le dossier le plus épineux reste la reprise du site Whirlpool. C'est un échec, reconnaît Emmanuel Macron, qui s'était personnellement affiché aux côtés d'un repreneur 5 mois après son élection. 163 salariés, toujours sans emploi. Ça ne me convient pas. Comme eux, j'y croyais. Comme eux, j'ai été déçu, tranche le président, qui va rencontrer les anciens employés et promet de relancer le dossier.
Et au chapitre de ces dossiers épineux, hein, Emmanuel Macron doit rencontrer dès aujourd'hui donc des étudiants en pleine mobilisation contre la précarité. Hier d'ailleurs, un nouvel appel à la grève mardi prochain a été lancé.
Bonjour Virginie Riva.
Bonjour.
Vous êtes la spécialiste éducation d'Europe 1. Avec vous, on a voulu comprendre justement ce matin la situation des étudiants en France. Il y a ceux qu'on entend ces derniers jours obligés de travailler pour payer leurs études, mais il y a aussi ceux qui ont le soutien financier de leurs parents et ça impacte forcément leurs études. Illustration avec Blanche et Clara que vous avez rencontré à Paris.
Oui, effectivement, la première s'appelle Blanche, elle a 19 ans, elle est originaire d'une petite commune près de Clermont-Ferrand. Elle est obligée de travailler le soir pour s'en sortir.
Je fais les fermetures dans un club de sport 4 fois par semaine, donc ça me fait travailler 4 heures par soir. C'est de 18h30 à 22h30, sauf qu'en général, je finis un peu plus tard parce que voilà, comme c'est la fermeture, les clients traînent. Ce qui pèse surtout, moi j'ai l'impression, c'est plutôt pour mon travail personnel, les devoirs que je dois faire, parce que finalement j'ai pas le temps, et en fait dès que j'ai un peu de temps, genre 1 heure ou 2 chez moi, bah j'ai pas envie de travailler, mais je sais que si je travaillais pas, ce serait beaucoup beaucoup plus dur, je pourrais pas payer.
Voilà, comme Blanche, 46% des étudiants travaillent pour pouvoir vivre. Blanche, elle, gagne à peu près 600 euros. À cela s'ajoutent 650 euros de bourse, son loyer. Pour un 20 mètres carrés en colocation, lui coûte plus de la moitié. Et une fois payé ses factures, il ne lui reste vraiment pas beaucoup pour vivre.
En général, je donne 100 euros à ma mère parce qu'on est 4 enfants. Du coup, bah, j'aide un peu ma mère quand même. Donc, il me reste 200 euros pour le reste. Mais en général, je finis pas les mois. Je saurais même pas vous dire où part mon argent.
Vous pouvez quand même sortir, profiter ou quand même, c'est difficile.
Je sors et tout, mais financièrement, je me restreins. Il y a des soirs où je me dis, ah, j'ai envie de sortir. Je me dis, ouais, non, mais là, le café, ça va, en plus à Paris, c'est cher. Ça va me coûter 5 euros. En vrai, c'est beaucoup, 5 euros avec 5 euros. Je peux manger un soir où ça sera la galère.
Voilà, autre profil croisé sur le campus, celui de Clara, qui, elle, n'a pas besoin de travailler. Elle fait juste un peu de babysitting pour se faire de l'argent de poche. Ça lui rapporte 400 euros par mois. Pour le reste, elle vit chez ses parents, donc pas de loyer à payer. C'est ça, en général, qui pèse le plus dans le budget. Et voilà ce qu'elle dit quand elle entend ce que vit Blanche.
Je ne sais pas si j'aurai le courage de faire tout ça. C'est vrai que j'ai des conditions favorables. Je sors, je vais au restaurant, dans des bars. J'ai beaucoup de liberté, j'ai du temps libre aussi. Et c'est assez confortable. Je vis bien, on va dire. Je sais que mes parents sont là derrière moi.
Voilà, deux situations et deux vies totalement différentes, des profils que l'on retrouve chez tous les étudiants. C'est d'ailleurs ce qui explique aussi la faible mobilisation étudiante. Ceux qui travaillent et sont précaires n'ont pas le temps d'aller aux AG ni de manifester. Quant aux autres, ils ne se sentent pas vraiment concernés.
Des paroles d'étudiantes qui éclairent aussi ce mouvement contre la précarité. Virginie Riva, merci.
Fini la paperasse et les méandres des organismes paritaires. À partir d'aujourd'hui, l'accès à la formation professionnelle est simplifié.
Sur Europe 1, l'éclairage éco avec la Banque Rhône-Alpes pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Rhône-Alpes, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Bonjour Nicolas Barret.
Bonjour Marion.
C'est une vraie révolution. Ce jeudi, le gouvernement lance une application téléchargeable sur smartphone pour permettre à chacun de gérer directement ses formations.
Oui, Emmanuel Macron dit que c'est d'ailleurs la réforme la plus importante du quinquennat. C'est un big bang pour ce monde de la formation professionnelle, une forme d'ubérisation puisque chacun pourra choisir sa formation sans intermédiaire. 25 millions de salariés ou de chômeurs auront désormais un crédit de formation exprimé en euros, alors qu'avant il était en heures. Du coup, les prix étaient peu transparents. C'était un système opaque avec des intermédiaires, un système qui arrangeait bien les partenaires sociaux, qui était un peu une vache à lait pour les syndicats.
Lesquels ne sont d'ailleurs pas franchement enthousiaste.
Ben non, parce que ce système donne la main aux individus qui choisiront leur formation en fonction de leurs besoins. Le compte sera alimenté à hauteur de 500 euros par an jusqu'à 5000 euros ou 8000 euros même pour les moins qualifiés. Et puis bien sûr, on gardera ce crédit en changeant d'employeur. Le gouvernement attend de ce Big Bang que l'argent de la formation soit plus efficacement utilisé. Il faudra le vérifier. La bataille économique entre les pays se joue en effet en grande partie sur les compétences. Il faut que les Français soient mieux formés tout au long de leur vie. Cette appli offre un outil unique au monde. Pour cela, encore faudra-t-il qu'il soit bien utilisé. C'est tout le défi maintenant.
Et l'appli, c'est Mon Compte Formation, tout attaché, l'éclairage de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos.
Il ne jure plus qu'uniquement par Paris. Désormais, les patrons privilégient l'ancrage territorial. Écoutez bien ce qui ressort de cette enquête de la Fondation MMA et qu'Europe 1 vous dévoile ce matin sur le dynamisme entrepreneurial des territoires. Illustration à Lyon avec la société Lunettes pour tous. Le reportage de Jean-Luc Boujon pour Europe 1.
Lunettes pour tous, c'est une des plus belles success stories de ces dernières années. 5 ans d'existence, 16 boutiques, 400 collaborateurs pour 25 millions de chiffres d'affaires. Alors certes, le siège de l'entreprise est à Paris, mais le cœur de l'activité, c'est-à-dire toute la logistique, est resté à Lyon où l'entreprise a été fondée, explique son patron Paul Morlet, lui-même lyonnais.
Tous les verres et montures sont reçus dans le 7e arrondissement de Lyon et sont dispatchés ensuite dans chaque magasin de France. On a 2500 m² au sol, enfin on a un truc assez gros. On a une quarantaine de collaborateurs sur place. On investit massivement à Lyon pour la logistique, entre 2 et 3
Une toute nouvelle plateforme ultra moderne inaugurée il y a 2 ans dans les anciens locaux du transporteur de fonds Loomis. La même ironie de l'histoire où travaillait le convoyeur Tony Musulin, l'homme qui avait dérobé plus de 11 millions d'euros en 2009. Alors sur place, le patron Lunettes pour tous n'a trouvé aucun billet, mais pour lui, le choix de Lyon à la base sentimentale est quand même très pertinent sur le plan économique.
C'est une place stratégique, on arrive à couvrir tout le territoire facilement depuis Lyon en fait. Ça se passe plutôt bien, donc on n'a pas de raison de le faire à Paris.
Voilà, Lyon, berceau de la conquête de Lunettes pour tous, entreprise en plein boom qui, dans les 2 ans, va ouvrir 30 nouveaux magasins et recruter plus de 300 personnes. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et cette enquête de la Fondation MMA, on va en reparler dans quelques instants. Le monde bouge avec Axel de Tarlet. La revanche des villes moyennes, le dynamisme entrepreneurial des territoires, c'est une enquête qu'Europe 1 révèle ce matin.
L'entrée en bourse aujourd'hui de la Française des Jeux, la souscription a attiré au total 500 000 de particuliers.
Dans un instant, le combat d'un père, 17 ans après le procès de la mort d'Élodie Kulik, à partir d'aujourd'hui. À tout de suite.
Europe 1, il est 7h09. La suite du journal avec Mathieu Béliard et Marion Calais.
Elle fut longtemps une affaire non élucidée, l'affaire Élodie Kulik, du nom de cette jeune banquière retrouvée morte dans la Somme en 2002.
Aujourd'hui, 17 ans après, s'ouvre le procès d'un de ses meurtriers présumés. Un épilogue judiciaire pour lequel s'est battu le papa de la victime. Pour Europe 1, Lionel Gougelot.
Il a bataillé pendant des années pour que les enquêteurs ne lâchent pas l'affaire. Il est même allé jusqu'à offrir une prime de 100 000 euros pour obtenir des témoignages. Aujourd'hui, Jackie Kulik fera face au meurtrier présumé de sa fille avec l'espoir d'avoir enfin des réponses.
Je recherche la vérité. Je veux savoir comment exactement ça s'est passé. Je voudrais qu'il me dise au moins quelles ont été les dernières paroles de ma fille. Parce que ça, je l'ignore. Lui le sait, il y était. Et puis l'avoir devant moi. Moi, je suis prêt. Si lui ne l'est pas, moi, je serai prêt.
Willy Bardon, un copain de Viré, de Grégory Viard, violeur d'Élodie, identifié par ADN, mais décédé peu de temps après. Bardon clame son innocence. Le seul élément qu'il accuse, c'est sa voix reconnue par des proches sur quelques secondes de l'enregistrement de l'appel d'Élodie aux pompiers au moment de son agression. Discutable, selon son avocat Stéphane Dacot.
Moi, je constate, en écoutant cette bande, et puis ce que viennent de dire les experts. Reconnaître quelqu'un, c'est extrêmement difficile, voire impossible. Si on fait une analyse juridique et scientifique de la situation, ça me paraît effectivement être un élément qui devrait exclure la responsabilité qui est la sienne.
Conséquence du délai de l'instruction et des recours de ses avocats, Bardon a été remis en liberté il y a 5 ans. Des années de liberté volées, souffle Jackie Kulik, qui n'attend rien d'autre qu'une condamnation à perpétuité. Amiens, Lionel Gougelot, Europe 1.
En plein procès du Mediator et alors que les victimes vont commencer à témoigner aujourd'hui à la barre, le médicament des laboratoires Servier a fait une nouvelle victime 10 ans après son retrait du marché. Une femme de 55 ans qui sera enterrée ce jeudi en Haute-Garonne.
Après les accusations de viol, est-ce que la polémique n'a pas aussi fait de la publicité à Roman Polanski? Une semaine après sa sortie, son J'accuse caracole en tête du box-office. Plus de 500 000 entrées, un film que la présidente de la région Île-de-France regrettait hier soir sur Europe 1 d'avoir financé.
Je dois vous dire que j'ai été bouleversée par le témoignage de la femme qui a accusé Roman Polanski de viol. Et même si, évidemment, la présomption d'innocence doit jouer, moi, je dois vous avouer que si c'était à refaire, je ne financerais pas ce film.
Valérie Pécresse avec David Doucan hier soir sur Europe 1.
Un témoignage accablant pour Donald Trump et l'ouverture du Beaujolais nouveau. C'est la suite de votre journal de 7h dans un instant sur Europe 1.
Il est 7h14 sur Europe 1, le journal se poursuit. Marion Calais, Mathieu Béliard.
Donald Trump demande la fin de la chasse aux sorcières. Réaction du président américain après l'audition d'un de ses proches hier dans l'enquête en vue de sa destitution.
Le diplomate Gordon Sondland l'a directement impliqué dans l'affaire ukrainienne. À New York pour Europe 1, Xavier Yvon.
La nonchalance affichée hier par Gordon Sondland tranchait avec le fond de ses déclarations, les plus graves jusqu'ici contre Donald Trump.
So we followed the president's orders.
J'ai agi sur ordre du président, a d'abord déclaré l'ambassadeur avant de confirmer.
Was there a quid pro quo? The answer is yes.
Oui, il y a bien eu un marché donnant-donnant avec l'Ukraine. Donnez-nous des enquêtes pour salir Joe Biden, nous vous donnerons l'aide militaire promise et une invitation à la Maison Blanche. Et à propos de ce chantage,
everyone was in the loop.
Tout le monde était dans la boucle. Le président, le vice-président, le chef de cabinet, le secrétaire d'État, nombre de conseillers et Rudy Giuliani, l'avocat personnel de Donald Trump, le lieutenant chargé de faire pression sur les Ukrainiens. Est-ce suffisant pour les démocrates? Oui, on ne peut pas faire plus clair. Le président a abusé de son pouvoir à des fins personnelles. Les républicains, eux, se sont engouffrés dans les trous de mémoire de l'ambassadeur, insistant sur le fait qu'il n'a jamais entendu l'ordre de la bouche même du président. Et tant que les républicains restent en rang serré derrière Donald Trump, impossible qu'il vote sa destitution. Reste la bataille de l'opinion publique à moins d'un an de l'élection présidentielle. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
Les États-Unis, deuxième marché d'exportation du Beaujolais nouveau après le Japon. Mais est-ce que cela va durer avec ces taxes de 25% imposées par Washington le mois dernier? C'est toute la question, écoutez bien, pour Dominique Piron de l'interprofession du Beaujolais.
Nous prenons cette taxe de plein fouet à un moment où les commandes étaient passées, les transports réservés. Donc globalement, il y a très peu d'annulations de commandes. Le client à la sortie va forcément payer un peu plus cher, mais vous savez, une taxe de 25% à l'arrivée au port, 25% de plus sur la marge du distributeur, de l'importateur et puis encore la TVA sur la taxe, à la sortie, c'est 40% de plus pour le client. Donc ces 40% vont se répartir selon les discussions entre les différents opérateurs. De façon à rester plausible sur le marché.
Bon, ça c'est pour l'économie, c'est important, c'est vrai, mais l'autre question du matin,
S'il vous plaît.
Quoi ce Beaujolais nouveau? Boris et Audrey l'ont goûté pour nous dès hier soir.
C'est le goût du Beaujolais, comme tous les ans, mais franchement il est pas mal. Il est pas mal, il est très fruité, il a un peu plus de corps que d'habitude, peut-être un peu plus épais.
Il n'y a pas de banane, il n'y a pas de mûre là-dedans?
Je regoute. On dirait une bière aux fruits rouges, le gros chimique de fruits rouges, un peu, tu vois? Non?
Fruits rouges, ouais. Mais non, je l'aime bien.
Bah voilà, c'est bon, il manque plus que le camembert et puis c'est parti.
Bon bah voilà, pas de banane apparemment pour ce Beaujolais nouveau dégusté hier soir dans un bistrot parisien au micro de Jean-Gabriel Bourgeois.
Ils savent vivre, c'était moi au micro de Jean-Gabriel. Non, il manque plus que le camembert, c'est ce qu'on retiendra ce matin. Merci beaucoup, Marion Calais.